R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Donc, tout d'abord, merci à vous d'être là cet après-midi. J'espère qu'il y a encore peut-être quelques autres personnes qui vont nous rejoindre. Je remercie Raquel et Catherine d'avoir organisé cette journée et de m'avoir invité, et surtout d'avoir invité Federico Rossin et Raphaël Neuer, qui vont prendre la parole juste après moi. Le thème de la table ronde donc de ce début d'après-midi, c'est engagement politique par la programmation et la critique de cinéma. Cette table ronde va venir du coup conclure la journée en quelque sorte, enfin c'est pas le dernier moment, mais elle va venir conclure une série d'échanges qu'il y a eu ce matin. Je pense qu'il y a, j'espère, plusieurs choses qui vont être dites par nos deux invités, qui vont résonner avec ce qui a été dit ce matin par les différents intervenants. Et en même temps, pour commencer, en fait, j'aimerais peut-être que Federico et Raphaël, et donc je pense que Federico va commencer, expliquent un petit peu leur pratique. Je rebondis sur ce que je crois Raquel a dit ce matin, ou c'était peut-être Catherine, dans votre texte d'introduction, qui présentait assez bien l'enjeu de la journée, sur l'idée qu'il fallait insister sur... enfin, que cette journée soit un dialogue concret, en fait, sur les pratiques artistiques, sur les pratiques culturelles précises. Et donc, voilà, peut-être que la première des choses, ce serait de commencer par présenter votre propre vision concrète de votre pratique, avec des exemples, et puis ensuite, voilà, je pense que ce serait plus agréable si c'est un dialogue aussi entre vous deux et par la suite avec le public aussi. Donc voilà, je passe la parole donc à Federico Rossin, qui est programmateur indépendant, historien du cinéma, auteur aussi de plusieurs ouvrages sur certains cinéastes, dont je pense il va nous parler aussi. Donc voilà, je te laisse la parole, Federico.
Merci beaucoup. Michael, merci beaucoup à Catherine et Raquel pour l'invitation. J'ai connu Raquel il y a, je crois, 10 ou 10 ans, un truc comme ça, dans un festival à Lisbonne où elle avait son premier film. Et voilà, on se revoit dans un autre contexte. Et j'étais là à cette époque-là, comme voilà, je travaillais pour le festival d'Auch-Lisboa. Et depuis, j'ai travaillé pour des dizaines et des dizaines de festivals. Je reviens sur un mot qui est important pour moi. Je travaille dans différentes langues, différents pays. Je suis italien d'origine. Et en même temps, ce mot de... Oui, curator, comment dire, curatore. Il y a le mot cura, c'est-à-dire prends soin de... quelque chose. La zorgue de Heidegger, elle est là. Donc, commissaire, ça fait vraiment la police. Donc, c'est un peu atroce désormais. C'est vrai que être commissaire d'une exposition, moi, je vois les pistolets sous l'avant-bras. Et donc, pour moi, le curateur, c'est aussi c'est quelque chose qui est né, ce métier, petit à petit, c'est né aussi dans deux goûts. Le dégoût d'écrire comme critique sur les cinémas d'aujourd'hui et d'en pouvoir plus rien voir dans les films d'aujourd'hui, d'en avoir trop vu et de chercher ailleurs, de faire autrement, de faire rentrer autrement le regard dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire tout court. Et donc, j'ai construit un profil. Moi, à la base, j'ai fait des études d'histoire de l'art et de philo. Et encore une fois, voilà, ça dépend des pays, parce qu'en France, c'est très cadré, il n'y a qu'une voie, on doit l'apprendre. Donc en Italie, faire études de lettres, c'est très très vaste ce qu'on peut étudier. Et en tout cas, je n'ai jamais terminé mes études, parce que j'ai commencé à travailler. Et après, la question pour moi de faire des programmations, c'est une question liée à l'écriture, liée à la forme de l'essai. C'est-à-dire, l'essai, c'est un savoir, qui est un savoir pour appréhendre le réel, mais que ce n'est pas un savoir scientifique, c'est un savoir à la première personne, Donc c'est un savoir subjectif, de loin autobiographique, mais c'est une manière aussi de raconter. Donc l'essai occidental commence avec Montaigne. Je m'appelle Michel de Montaigne. Donc il y a quelque chose à la première personne. Je vais parler du monde qui m'entoure, de voir comment l'altérité, ça m'a touché ce matin la question de Oswald d'Andrade, parce que j'ai travaillé aussi sur une programmation autour de l'anthropophagie et de la culture anthropophage, et qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est exactement ça pour moi. Donc, avoir la possibilité de programmer, c'est de se plonger dans des choses, dans une histoire, pendant des mois et des mois et des mois, aussi des années parfois, voir énormément de films, lire énormément de livres, voir énormément de peintures, de photos, de textes, et réduire, condenser petit à petit, arriver à créer une espèce de cosmologie qui est fait. Chaque planète est un programme, et après il y a les systèmes, microsystèmes solaires qu'on écrit, à la fois doivent raconter quelque chose en soi, chaque programme, et aussi on imagine un spectateur idéal qui puisse nous suivre dans tout ça. Et donc j'ai travaillé pour la plupart de mes programmations autour du cinéma expérimental et du cinéma documentaire. C'est-à-dire que la fiction, même si je suis un cinéphile acharné, ne m'intéresse pas, programmer de la fiction. Les autres choses, disons que les marges, soi-disant marges du cinéma et aussi de l'histoire du cinéma, m'intéressent, me touchent beaucoup plus. Et donc là, beaucoup des programmations que j'ai fait pendant les derniers 15 ans, je vais montrer quelques exemples. Donc je vais partir d'un des derniers, donc, qui était une programmation que j'ai fait pour le cinéma du réel l'année passée, donc qui s'appelait « Pour un autre 68 ». Le hasard fait que dans la revue qui dirige Raphaël, il y a aussi une interview qui a été faite par des étudiants d'Alix autour de cette programmation. À la fois, j'utilise un gros mot, l'art de programmer, et en même temps, dévoiler qu'est-ce qui est derrière une programmation et aussi raconter ses trajectoires. Donc, pour la question du 68, je ne voulais absolument pas me refaire à la mythologie franco-française. Donc, le quartier latin, la narration 68-art, post-68-art, anti-68-art. Et au contraire, je me suis mis à étudier dans les livres d'histoire qu'est-ce qui s'était passé dans le monde cette année-là. Et de voir si cette génération-là n'était pas que blanche, n'était pas que européenne, n'était pas que liée à un cinéma d'auteur, mais il y avait aussi des marges, des franges dans le monde entier, qui étaient aussi des artistes, mais des plasticiens, mais aussi des cinéastes, aussi des militants, qui ont essayé, pas que de filmer le réel en ébullition, mais aussi de bouleverser la forme. Parce que la chose qui m'intéresse en tant qu'historien du cinéma, c'est de voir que s'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de cinéma. Il y a d'autres choses, il y a du visuel, comme disait Danet, il y a autre chose. Et donc, à chaque programmation, je vous explique comment je travaille, je me pose je fais une table des matières, les choses qui m'intéressent, les sujets qui m'intéressent, les lignes, les tracés, disons, les lignes de fuite que je veux essayer de creuser, les rhizomes que j'ai envie d'explorer, et petit à petit, de voir que les choses se mettent en place. Et donc, c'est là que j'ai rejoint le travail de curateur, voilà. Même quelqu'un qui fait un accrochage, qui imagine une expo, pour moi, c'est exactement pareil. Ou quelqu'un qui écrit un essai. C'est, encore une fois, un seul mot qui regroupe tout ça, c'est le montage. On fait un montage. Montage des choses, des strates, on met en relation des temporalités, des formes différentes. On fait voyager le spectateur. Et en même temps, on lui raconte quelque chose. Pour moi, la question de la narration est très importante. Donc, on ne le perd pas de vue. Et toujours, en mettant le spectateur à mesure de lire tout ça. La lisibilité du dispositif, de l'invention, de la stratégie qui est derrière, doit être affichée. Je suis un ancien brechtien qui a jamais, qui est, ne deviendra jamais rancierien. Voilà. Donc je crois toujours à Verfremdung Effect. Et donc, je vous montre quelques exemples. Donc, 68, c'est quoi qui est important pour moi à ce moment-là? Donc, par exemple, le Vietnam. Et le Vietnam, alors qu'est-ce qu'on fait avec le Vietnam? Vietnam, pour moi, ça sonne immédiatement la première guerre médiatisée et médiatique en Occident. Première fois que la télé participe aux événements. Première fois. Et donc, comment on peut voir que cette génération-là avait aussi un autre ennemi, la télé. Et comment ils ont réinventé des formes, des cinémas du réel, des ciné-tracts, des essais filmiques, mais aussi des œuvres plastiques. Et là, je mélange les choses. J'essaie de construire, première chose, élargir le corpus. Ça, c'est le devoir absolu d'un programmateur, à mon avis, et d'un historien. Si on se contente de films qui sont là, qui sont déjà connus comme ça, pour moi, ce n'est pas pour le goût de la rareté qu'un cinéphile ou cinéphage peut avoir. C'est juste parce que ces choses-là nous permettent de réouvrir les yeux. Parce que le problème de ces images-là, c'est qu'on les a déjà tous vues. Donc il y a d'autres façons de réimaginer ces images-là. Et donc j'avais commencé avec un film d'un étudiant de la DFSB de Berlin, Carlos Bustamante, qui venait d'Amérique latine. J'ai pris un film brésilien d'un auteur LGBT que j'aime beaucoup, João Silveiro Trevisan, qui a fait un film aussi après qui s'appelle Orge. Et Contestação, c'était un film qui a été totalement oublié, qui a été perdu et qui a été redécouvert seulement il y a 2 ans dans les archives à Oberhausen ou à Leipzig. Voilà. Et c'était un film qui pour moi contient tous les autres. C'est un détournement d'images de cinéma, de télé, pour raconter une révolution mondiale, la constatation. Artiste Caroline Schneemann, Viet Flakes, Jack Chambers, lui aussi artiste canadien. Un des premiers films de Farocchi, White Christmas. Sightseeing de Peter Nessler, donc grand documentariste exilé en Suède. Et j'ai terminé avec le seul film de Walter de Maria, grand artiste de la land art américain, Hardcore, qui est un film qui travaille la question du cinéma, de western, et qui termine avec l'image d'une jeune fille vietnamienne. Donc voilà comment je travaille, comment j'essaie de bouleverser les attentes du spectateur, d'arriver en même temps à tisser des liens entre les films qui sont des liens morphologiques, des gestes et aussi des formes qui se retrouvent, qui se relancent. C'est des variations. La question de la musique, pour moi, dans la programmation, est essentielle. Quand je pars de thème, je ne pars pas d'un sujet, je pars vraiment d'une musique qui est derrière. Donc, par exemple, je vous montre un autre programme. Donc là, je me suis posé la question. L'université. L'université, oui, on a vu énormément de films avec les étudiants, faits par les étudiants, mais ce bouleversement des hiérarchies, des pouvoirs, des relations, des savoirs, comment c'était possible, pas seulement de le documenter, mais de le figurer, que c'est autre chose. Donner une image, figurer quelque chose, faire accéder au figural un événement, c'est tout autre chose que faire un documentaire. Et donc là, je me suis dit, bon, moi je connais 2 films qui ont fait ça. Le premier film, C'est un film qui a été tourné à le Carpenter Center à Harvard par un réalisateur qui n'est pas assez connu, mais je suis en train d'y penser, Robert Fulton. Carpenter Center à Harvard, c'est le seul bâtiment moderniste de Le Corbusier réalisé aux États-Unis. Et en même temps, c'est un film sur l'arc des créations, dirait Deleuze. Et après, pour moi, le seul film qui a vraiment incarné le geste de balayer, de jeter tout à la poubelle, d'échanger tout de l'université, pour moi, c'était Back and Forth de Michael Snow. Je ne sais pas si quelqu'un de vous l'avoue. C'est un film qui est avec une caméra qui, comme ça, juste arrivé à une vitesse énorme, machinale, et pourtant c'est son bras qui l'a fait, parce que le moteur qu'il avait inventé à coupler à la caméra s'est cassé, il l'a fait à la main. Et c'est une espèce de symphonie dont tournée dans une classe d'université aux États-Unis, où il y a plein de gens qui passent, il y a beaucoup de gens qui font partie des Fluxus qui sont dedans, et qui jouent dans les films. Et pour moi, c'était ça. À la fin, il y a l'apparition aussi d'un flic. Voilà. Pour moi, c'était 68 à l'image. Donc, pas l'interview des leaders de mouvements étudiants en France, mais quelque chose qui figure tout ça, qui incarne. L'incarnation, c'est toute autre chose. Voilà. Et après, par exemple, voilà, je me suis posé une question. Mais là, dans le monde où il n'y a pas eu 68 dans la vie, par exemple, parce qu'il y avait soit des dictatures, soit le pouvoir empêchait tout accès au changement. Est-ce qu'il y a eu quand même 68 dans la forme cinématographique? Eh oui. Par exemple, en Inde. En Inde, il y a une toute petite créneau de temps entre la fin des années 60 et le début des années 70, juste avant le coup d'État d'Indira Gandhi, qui bloque le pays. En 1974, il y a une génération qui est au sein d'une institution issue du colonialisme anglais, Film Division, a fait une poignée de films, qui sont des films extraordinaires d'un point de vue formel, d'invention aussi cinématographique, et qu'ils ont bouleversé le territoire du cinéma expérimental et documentaire là-bas. Donc, tout ça naît de la frustration de ne pas changer la vie, au moins on change la façon de la montrer. Et donc, j'avais appelé ça... Alors, ça s'ouvre ou pas ?
Je crois que t'as raté.
Ouais. Merci. Exploding India. Et j'avais trouvé, donc pour vous donner une ampleur de travail... J'avais regardé 350 films indiens, sans sous-titres la plupart. Mais c'est tellement un bonheur. C'est des territoires vierges qui nous attendent. Il faut juste aller avoir le courage de dire, bon, je donne du temps pour ça, retrouver ça. Et quand on le trouve, finalement, on dit, bon, il y a de quoi. C'était 7 films, courts-métrages. Ou par exemple cela, la question médiatique. La génération des 68, c'est la génération qui a pensé, soit sous forme de cinéma, mais aussi des zines, mais aussi d'affiches, posters, tout ça, donc la communication d'une manière révolutionnaire. La première génération qui fait ça. Donc j'appelais ça « guérilla média ». Donc, à partir d'un livre sur Guerrilla Television dans les années 70. Et là, j'ai pris 3 films. Un film féministe allemand, Brecht, die Macht der Manipulateur, de Elke Sande. Un film brésilien, de Joaquim Pedro de Andrade, qui est un film de commande sur la publicité. Un film génial, qui démolit la stratégie publicitaire. Et un film tourné en cachette, en clandestinité, en Espagne, par Elena Lumbreras et Mariano Lina. Lisa, collectif de cinéastes marxistes sous l'Espagne de Franco. Le Franco, il était passé, il était encore là, mais en tout cas, il y avait Carrero Blanco et ça clique. Voilà. Le montage de tout ça, parce que moi, c'est la chose qui m'intéresse, c'est que les spectateurs creusent une histoire, apprennent des choses, et aussi voient un renvoi au présent, et que beaucoup des choses qui se font aujourd'hui et autrement, de masquer, couvrir comme ça, se sont déjà faites. Il y a donc c'est quoi? C'est un travail de généalogie aussi. C'est une généalogie. Retrouver les traces. Pour moi, c'est aussi, comment dire, une façon de trouver des familles. Les films sont tous orphelins quand ils ne sont pas dans les livres d'histoire du cinéma. Moi, j'essaie de recomposer des familles avec une femme féministe, un réalisateur de cinéma nouveau et une femme militante marxiste espagnole. Ça, pour vous donner un contexte. Et je vais terminer avec une autre programmation. Comme ça, on aura un peu de temps pour discuter et pour écouter aussi Raphaël, donc, qui te tient au cœur aussi. Donc, en 2014, pour le cinéma du réel, j'avais imaginé une programmation autour du 25 d'avril, donc de la Révolution portugaise. Alors, là. Donc, j'avais passé un été de mai à octobre à Lisbonne. Aux archives aussi. Et là, je me suis dit, comment je peux faire pour raconter l'histoire d'une génération qui a fait en même temps du cinéma et la Révolution? En même temps. Et comment ils ont travaillé la question, par exemple, que vous avez abordée ce matin, du collectif, de l'auteur? Voilà. J'avais trouvé les titres d'un livre d'un psychanalyste italien qui s'était rendu au Portugal en 1975 et qui avait appelé ce petit bouquin « Uma tentativa de amor ». J'avais trouvé ce titre magnifique. C'est ça une définition des révolutions. Donc j'avais la chance d'avoir plus d'une dizaine de séances et j'ai commencé. Voilà. « Vive la révolution », les tout débuts, filmés sur les vifs. Cine Equipa, Os Caminhos da Liberdade, As Armas ao Povo, un autre film collectif. Deuxième film, Retour en arrière, comment on peut voir qu'est-ce que c'était ces 48 ans de dictature. Deus Patria e Autoridade, de Ruiz Simões. Décoloniser l'imaginaire. Et là, c'était un film extraordinaire sur la guerre. Sur la guerre coloniale, le film sur les soldats qui sont revenus du Portugal, on les croyait morts pour la plupart. Il y avait même des tombeaux au cimetière, tu te souviens. Délire et apparition. Là, c'était la séance la plus folle. J'avais trouvé un film, le grand film de João César Monteiro, Que eu farei eu com esta espada, et avec un film queer, tourné en Super 8. Magnifique, Fatoucha Superstar, qui c'est une parodie de Fatima. Voilà. Travailler au bien commun. Continuer à vivre. Donc la question du peuple. Et là, deux films sur les banlieues. La terre, la question de la terre. Et là, deux formes très différentes. Terra de Pau, Terra de Luta, qui est un film très idéologique, comme ça, avec A Lei da Terra, qui c'est aussi un film sur la beauté, la lumière des champs. Et après, film central de cette rétrospective, Torre Bella, de Thomas Harlan. Question de la communauté. La question de, on est tous concernés. Donc là où un village entier, qui va du prêtre aux notables, aux ouvriers, sont touchés par les effets de la Révolution. Le film de Robert Kramer. Et après, Fernando López, Nos Porca Todos Bem, qui est un film entre la fiction et le documentaire, qui est un film entre le musical et l'autobiographie, qui est un film que je vous conseille de voir. C'est un chef-d'œuvre. Miguel Gomes lui doit beaucoup de choses, parce que à gauche, c'est exactement ce film-là, mais on le connaît pas. Et deux films d'Antonio Campos, la question de l'anthropologie, parce qu'on fait aussi de l'anthropologie quand on fait une révolution. Et à la fin, 13e séance, l'après-coup, Comment on réfléchit au fait que ça a été un échec, mais ça a été quand même. Voilà. L'idée, c'est de raconter cette histoire, quelque part, d'amener les spectateurs à connaître une cinématographie, un pays, un langage, et des variations. Voilà. Il n'y a rien qui... Comment dire, il y a beaucoup de formes différentes qui se mêlent, qui se croisent.
Voilà. Merci, merci Federico pour cette présentation de ton travail et avec ce choix en plus de termes. Je pense que ce matin ça a été un petit peu évoqué, donc ça rebondit sur le choix en fait du mot. Je crois que c'était Natacha ce matin aussi qui parlait des différences entre commissaire, curator. Enfin, il y a des appellations différentes et donc tu as bien insisté sur toi, ton rôle et ton implication dans la façon de programmer, qui est du coup pour toi une forme de montage. Donc de ce point de vue-là, je vais laisser la parole à Raphaël, parce que je pense qu'en termes de critique aussi, justement sur la critique de cinéma, dans les définitions on va dire traditionnelles, il y a cette dimension d'implication personnelle aussi dans la critique. Après, je sais que on en a discuté un petit peu ce midi, il y a une différence aussi, c'est que dans le travail de Federico en tant que curator, il y a aussi de curateur en français, je ne sais pas si programmateur, il y a cette dimension généalogique où tu vas plutôt vers un cinéma oublié ou des cinémas passés pour aller vite. Alors que je pense que dans la critique de cinéma, il y a cette dimension aussi contemporaine, ancrée sur des objets encore. Qui sortent aujourd'hui, etc. Voire même, je pense que tu en parleras peut-être aussi à la fin ou au moment de la discussion, le format de la série télé qui est encore quelque chose à la limite de plus récent. Donc voilà, je passe la parole en tout cas à Raphaël pour que toi aussi tu présentes aussi peut-être ton parcours et ton rapport à la critique.
Oui, donc merci pour l'invitation déjà. C'était très intéressant. On pourrait vous écouter comme ça pendant une heure et sans que j'ai forcément à intervenir, mais si je devais rebondir un peu là-dessus, au fond, ce qui est intéressant sur le travail de la critique, parce que justement, ce midi, on parlait du fait de comment on retrouve un cinéaste que personne ne connaît, et c'était notamment par les textes. Alors peut-être qu'effectivement, s'il y a une utilité à la critique, c'est pas nécessairement d'amener aujourd'hui des spectateurs en salle, là, j'y crois assez peu, mais peut-être que voilà, il reste quelques traces, un nom, un titre, et puis voilà, dans 50 ans, si Internet existe encore, on le trouvera et ça donnera l'envie de le voir. Donc là, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire au fond, peut-être déposer quelque chose, mais sans forcément viser l'avenir, mais simplement en rendant compte du présent et des films qui nous arrivent. Sur la manière dont Débordement est né et comment ça fonctionne, là, tu as présenter un programme et voilà avec tout ce que ça implique de conception, de réflexion si je devais parler, disons, un peu de la vie de la revue, j'aurais plutôt tendance à pointer ce qui relève, on pourrait dire, du hasard, même de l'échec à la rigueur. Et je crois qu'il y a vraiment une vertu de l'échec qu'on a tendance à oublier quand on raconte une histoire. Puisqu'en général, on dit, on a fait ça, on a fait ci, et ça semble toujours une évidence. Alors qu'au fond, Débordement, par exemple, c'est né de manière tout à fait hasardeuse. La motivation, si je reviens sur ma personne uniquement, c'est simplement... J'ai pas eu l'idée de créer une revue, j'ai candidaté à droite à gauche, j'ai envoyé des textes dans d'autres revues qui existaient déjà et puis on m'a pas répondu. Et au bout d'un moment, je me suis dit peut-être que je peux faire un site avec quelques amis. Il se trouve que ces amis ont répondu présent et ils sont toujours là et on continue toujours à faire la... Voilà. Mais ça naît vraiment aussi d'un hasard, d'une rencontre, d'un échec. Même le numéro papier, c'était à l'origine un livre. Finalement, c'est devenu le numéro de la revue. D'une part, il y a ça, disons, du point de vue de ceux qui le font. Et puis ensuite, évidemment, il y a la question de l'actualité, des films qui nous arrivent, dont on rend compte ou pas, en fonction du temps qu'on a ou pas. La revue se dessine beaucoup aussi de cette manière-là. C'est-à-dire, évidemment, on peut imaginer qu'on a une ligne et rétrospectivement dire c'était ça notre ligne dès le départ, en fait c'est complètement illusoire, mais il y a quelque chose qui s'affirme, enfin qui finit par s'affirmer un peu presque indépendamment de nous et qui malgré tout trouve une sorte de cohérence et qui fait que quand des gens de l'extérieur nous proposent un texte, un entretien ou n'importe quoi, c'est pas non plus complètement par hasard. Et même si c'est pas nécessairement un cinéaste qu'on connaît, là par exemple, on vient de publier un entretien avec Alain Mazard, dont personnellement je n'avais jamais entendu le nom. Je me suis dit, bon, la personne qui me parle de ça a l'air très convaincue, elle a l'air de considérer ça comme vraiment très intéressant. L'entretien lui-même est intéressant, donc voilà, on le publie. Je ne vais pas aller vérifier si effectivement c'est bien. Ça se trouve, c'est complètement nul, mais j'ai pris le risque. Et du coup, Débordement se construit aussi, disons, sur ces rencontres, ces bifurcations, etc. Et peut-être qu'à la fin, ça fait une sorte de cohérence. Mais. Voilà, cette cohérence est vraiment prise dans les hasards du jour. L'idée de Débordement, sinon, à la base, c'était vraiment aussi de lier, disons, un peu deux temporalités ou deux pratiques d'écriture qui étaient, disons, plutôt l'université où mes amis allaient s'engager en thèse. Moi j'ai pas fait de thèse, donc ce qui m'intéressait c'était plutôt la critique, et du coup à partir de ces deux dimensions là on s'est dit bon, il y a quelque chose aussi qui se fait pas trop, c'est de, par exemple, de traduire des textes, d'aller voir dans les écrits anglo-saxons ou autres, parce que c'était la langue la plus simple à traduire pour commencer. Et donc voilà, il y avait un peu ces trois, disons, ces trois pôles-là, de critique, de recherche, de traduction, auxquels on a ensuite joint des formes qu'on a essayées plus brèves, ou en tout cas moins liées, disons, à des approches un peu théoriques, etc., qui étaient les notes, donc qui relèvent ni de l'actualité, ni vraiment d'un travail, disons, de recherche universitaire. Donc quelque chose qui était peut-être un peu plus libre. Et ensuite, on a aussi quelque chose qui était sur l'actualité, qui est là plutôt... Il y a un peu de tout. Il y a des éditos, il y a le scénario de film Socialisme, qu'on a été très heureux de publier, là aussi tout à fait par hasard, il faut bien le dire. Par chance, et puis des textes aussi de cinéastes en train de préparer quelque chose, en train de travailler. Et parmi les rencontres qu'on a eu le bonheur de faire au fur et à mesure de ces années, donc il y a eu des rencontres, on pourrait dire, par le biais des textes, avec des gens qu'on connaissait pas nécessairement, des cinéastes, des films, etc. Donc ça a été très important. Et puis il y a eu aussi des rencontres, disons, avec quelques cinéastes et qui nous ont fait l'amitié de nous offrir un film pour les 5 ans de la revue. Donc il y a des films, entre guillemets, labellisés Débordement, même si, hélas, on n'avait pas les moyens de financer ces films. En tout cas, on nous les a gentiment offerts. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est évidemment très touchant quand on fait la critique, évidemment. C'est de se rendre compte qu'au fond, c'est pas complètement séparé et que il y a quelque chose qui... Enfin, chez les cinéastes, il y a quelque chose qui les a suffisamment intéressés pour qu'ils s'engagent à faire des films qui répondaient justement à ce titre de Débordement. Puis de notre côté, évidemment, il y a quelque chose qui... Un travail, disons, suivi sur la création ou sur une œuvre. Voilà. C'est une petite présentation générale qu'on pourrait faire de notre travail.
Merci Raphaël. C'est vrai que quand je t'ai passé la parole, j'ai pas explicitement présenté la revue Débordement aussi, mais donc du coup tu l'as fait parfaitement, dont tu es cofondateur en fait. Il y a quelque chose qui m'est venu en fait, parce que vous avez parlé tous les deux finalement du rôle peut-être potentiel de vos pratiques en tant que programmateur avec cette dimension que tu as plus défendu de la forme de l'essai, du montage, etc. Tu as un petit peu rebondi là-dessus, Raphaël, sur la question du rôle de la critique qui n'est pas d'amener les spectateurs dans les salles, mais peut-être de laisser une trace aussi. Moi, ce qui du coup m'interpelle, c'est l'idée aussi que vous êtes des formes, je crois que le mot étant cité ce matin, une forme de passeur aussi. C'est-à-dire, et c'est marrant que tu aies parlé de Brecht tout à l'heure, parce que j'avais noté cette petite phrase que moi j'aime beaucoup tout le temps, qui est que ce qui est démocratique, c'est de faire du petit cercle des connaisseurs un grand cercle des connaisseurs. Et du coup, voilà, je me dis que finalement, c'est ça aussi ce qui fait l'engagement politique de votre pratique. C'est pas juste de laisser une trace, je pense, pour la critique, parce que c'est le cas aussi. C'est pas juste faire un programme. En plus, il y a une dimension peut-être plus solitaire, peut-être, dans la programmation de films. C'est aussi d'élargir les gens qui voient ces films ou qui lisent ces textes. Donc, je sais pas si, par rapport à ce rapport, on va dire, au public, vous avez. Vous vous reconnaissez dans ce mot de passeur, par exemple, potentiel.
De ce qui me concerne, complètement. C'est-à-dire que je pense fortement que, pour moi, le mot politique rime avec le mot pédagogique. Et ce qui m'intéresse, c'est des pédagogies non autoritaires, anti-autoritaires, qui travaillent autrement la transmission, la question de la transmission, qui travaillent l'horizontalité et pas la verticalité. Et donc, pour moi aussi, faire connaître une autre histoire du cinéma qui ne soit pas dans l'académie, qui ne soit pas montée, voilà, au créneau de savants ou qui reste justement un savoir pour les exquis, pour les privilégiés, ça ne m'intéresse pas. La chose qui m'intéresse, c'est justement de faire connaître. Et donc, il y a faire connaître, mais aussi diffuser. Franco Fortini, un grand intellectuel italien, disait que le vrai intellectuel, c'est un empoisonneur des puits, qui rend l'eau qui est imbuvable et qui te pousse à aller plus loin, à chercher plus loin, et que cette eau-là, ces goûts amers comme ça, soient plus invivables et qui donc te pousse à haïr le présent, à le détester. Et à changer. Si on ne change pas la vie, on ne va pas loin. Comment dire, on se réduit, on fait de la contemplation on va se calmer la mélancolie de gauche. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. S'il n'y a pas une colère aussi dans les choses que j'ai faites, s'il n'y a pas aussi, comment dire, pour moi, l'urgence n'est pas dans l'actualité, mais dans l'inactualité. Ce qui est, vous avez cité un mot, voilà, ce qui est contemporain, ce n'est pas forcément ce qui est d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui va à rebrousse-poil, qui ouvre des plaies qui sont là, oui, qui sont mal soignées. Moi, je veux bien les ouvrir, ces plaies-là. Je veux bien les ouvrir. Saignons. Parce que c'est comme ça. Donc, il y a des choses qui m'intéressent. La chose que, justement, ni Raphaël ni moi, nous sommes des gens, c'est pas contre personne, de l'université. Mais c'est sûr que parfois, hier, j'ai discuté avec des amis cinéastes après la présentation d'un livre, et on discutait que dans le monde académique d'aujourd'hui, on a réussi à faire un comble absolu. C'est-à-dire de faire des théories queer et féministes un truc identitaire. C'est quand même le comble. Réussir à construire quelque chose de politiquement correct avec des choses qui sont nées exactement pour détruire la question de l'identité, qui sont nées exactement pour montrer que l'identité est fruit d'une histoire et d'une politique. Donc, en faire des drapeaux aujourd'hui, qui c'est souvent et surtout des drapeaux des carrières académiques. Ça, c'est pas supportable. Et donc, là, ça a été cité ce matin, Delphine Seyrig. Delphine Seyrig montre. Oui, sois belle et tais-toi. Je suis très content qu'il soit montré à la Cinémathèque de Belgique aujourd'hui. Mais Delphine Seyrig a fait un film. Qui même les gens de une bande vidéo, pas un film, qui s'appelle Ignès. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Mais parce que même les gens du centre culturel Simon de Beauvoir, audiovisuel Simon de Beauvoir, ne m'ont pas le montré. C'est un film sur la torture au Brésil, dans les années 70. Avec la musique de Roberto Carlos, Amada Amanti, derrière. C'est un film insupportable. Mais moi, c'est le premier film que je montrerai aujourd'hui au Brésil. Ou Mato Eles, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, que j'ai montré au réel l'année passée, première projection européenne de ce film. L'année passée, il y a 2 ans, j'ai montré Triste Tropico, Ça, c'est les films qui m'intéressent de montrer. Pas les films politiquement corrects. C'est des films sales, douteux, difficiles. On ne peut pas les digérer. Donc, si je ne suis pas sœur, je ne suis pas sœur des choses, comment dire, qui après, vous allez... Si vous voulez manger, voilà, c'est comme sur la question du manifesto cannibalico, anthropophagico, c'est pour le vomir, de quoi il est fait notre français. Voilà.
Quelque chose qui empoisonne, quoi. Absolument. C'est un passeur qui empoisonne.
Absolument. Okay. Donc, c'est un mauvais hôte, peut-être.
Non, non. Ouais. Du coup, je ne sais pas si Raphaël, tu... Enfin, en tout cas, sur la dimension de passeur aussi, est-ce que c'est quelque chose qui te semble... qui peut passer par, du coup, aussi un engagement... Je pense qu'il y a l'écrit, qui est ensuite visible sur la revue en ligne, qui aujourd'hui prend une forme papier aussi. Mais je pense que si vous faites des rencontres, vous faites peut-être des discussions avec des cinéastes, etc., donc ça va, le passage va se faire aussi autrement.
Oui, absolument. Alors, ce qui est la différence, c'est que bon, quand on programme un film en salle, on peut voir les gens qui sont là dans la salle et on sait qu'effectivement ça passe. Alors que quand on écrit, bon, c'est beaucoup plus nébuleux. Ce qu'il y a, c'est que bon, évidemment, on peut mettre des choses en avant, insister, faire des séries de textes, faire des dossiers. Où, voilà, on a aussi, je vois là qu'on a aussi fait un moment sur des films qui sortaient des livrets, qui étaient des choses assez longues, par exemple sur un film de Pierre Léon, sur un film de Sylvain Georges, etc. Il y a une rubrique que je n'ai pas mentionnée, qui est la rubrique projection, qui consiste simplement à trouver des films sur Internet, YouTube ou n'importe quoi, et à les agrémenter, disons, d'une petite présentation, et à se dire qu'au fond, il y a aussi peut-être une sorte de programmation à faire à partir de cette masse... énorme de films qui circulent ou qui sont simplement déposés comme ça en ligne et qu'il y a donc des choses voilà aussi mettre en avant. Alors effectivement bon c'est on peut toujours espérer que des rencontres s'organisent. Alors soit elles se font concrètement dans des salles avec des cinéastes qu'on invite, des films qu'on présente, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait effectivement, notamment avec une salle à Lille, le Kino. Mais ensuite, bon, ça, c'est un peu en dehors, disons, de notre pouvoir, disons, le passage. Puisque après, bon, il ne faut pas non plus s'illusionner sur le, disons, sur à la fois le comment dire, l'extension du rayonnement critique. Donc là, j'ai découvert par exemple les chiffres de diffusion des Cahiers du cinéma qui descendent de 1000 exemplaires vendus en moyenne par an, et donc là, qui sont à 15 000 par mois. Donc les visites sur débordement c'est très modeste aussi. Donc voilà, je pense que ce qui est aussi difficile dans la question du passage, c'est que en fait on se rend compte. Moi je fais beaucoup d'interventions dans les lycées et en fait on peut se dire que déjà même parler d'un film comme Star Wars, c'est presque déjà faire de l'histoire du cinéma où vous passez quelque chose parce qu'en fait les lycéens ça les intéresse pas ou ils l'ont pas vu ou ils connaissent pas. Après le plus dur évidemment c'est de passer d'un public à l'autre, puisque voilà, le public du cinéma du réel, disons, il y a peut-être une certaine étanchéité et il y a un fonctionnement un peu clos. Donc évidemment, on peut allumer les brasiers au cinéma du réel, mais voilà, peut-être que trois rues plus loin, ça ne prendra pas beaucoup. Donc cette question du passage, effectivement, elle est très importante et très difficile, parce qu'il y a des publics un peu clos, que le cinéma lui-même est en train de devenir une sorte de niche. Et on n'a pas besoin d'aller à un film totalement inconnu pour se rendre compte qu'en fait ça a très peu d'écho de manière générale. Donc voilà, je pense que la première chose à faire quand on envisage cette question du passage, c'est déjà de se dire qu'on parle depuis un point extrêmement limité. Et après, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'évidemment, ça traverse aussi les publics, et pas simplement le public du festival. Après, on sait bien aussi comment les festivals fonctionnent. Bon, bah, par exemple, je sais pas, un festival à Marseille, on a le public parisien qui arrive à Marseille, qui va voir les films, et les Marseillais qui n'y vont pas, ou je dis Marseille, mais ça peut être une autre ville. Donc voilà, c'est là où ça devient très compliqué aussi, parce qu'il y a tout un travail de découverte, de défrichage, de généalogie, et en même temps...
Oui, c'est pour ça que, par exemple, moi, j'essaye de travailler dans beaucoup de couches, beaucoup de strates. C'est-à-dire, moi, je travaille aussi pour les grands festivals, mais aussi pour les associations culturelles, aussi dans l'éducation populaire. J'ai fait des ateliers, des séminaires dans les banlieues, dans les quartiers pauvres aussi, avec Peuple Culture. Et je montre, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez quelque chose qui s'appelle l'école de la deuxième chance. C'est une institution française pour les jeunes qui n'ont aucun diplôme, rien. Entre, disons, 18 et 27 ans. C'est la dernière possibilité, lui il donne 9 mois pour apprendre à écrire un CV, pour faire des rencontres professionnelles, pour arriver à penser un peu qu'est-ce qu'ils vont faire de leur avenir. Moi, j'interviens dans ce cadre-là aussi. Et je me souviens, la première chose, moi, j'ai fait toujours des programmations pour eux, exactement dans la même manière comme j'ai fait au cinéma du réel. Je me souviens, on avait fait quelque chose autour de la récupération. C'est arrivé fort. C'est la première fois qu'ils m'ont invité, ils m'ont demandé, on va faire sur quoi? C'était Sarkozy à l'époque. J'ai dit, bon, on va faire quelque chose sur la poubelle. Ils vous ont traité des poubelles, des racailles. Donc, on va faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait de la poubelle? Et je lui expliquais que pour moi, le travail d'historien du cinéma, pour citer Benjamin, c'est le chiffonnier. Quelqu'un qui récolte des choses qui sont oubliées, jetées, que personne ne va réutiliser et qui essaie de faire un bricolage pour construire quelque chose. Et je me souviens, les yeux, ce n'est pas pour faire de sensiblerie, mais parce que ça me touche beaucoup plus que le cinéma du réel. J'ai dit, oui, ça, je l'ai montré à l'université la semaine d'avant. Silence. Dit, vous nous montrez les films que vous montrez à l'université? J'ai dit, je ne vois aucune différence. C'était la première fois que quelqu'un ne le prenait pas de haut avec la culture comme une matraque. Mais c'était une ouverture. Bon, les jours d'après, ils n'étaient pas obligés. C'était une programmation que j'avais faite pour un autre public, au Carré d'Art à Nîmes. Ils sont tous venus. C'était la première fois qu'ils allaient de leur quartier de banlieue. Nîmes, c'est une ville extrêmement pauvre en banlieue. Qu'ils ont pris les transports communs, ils sont venus au Carré d'Art. Ils n'étaient jamais rentrés au Carré d'Art. Ils sont venus. Ce n'est pas parce que c'est moi. Parce que je pense qu'il y a des possibles à ouvrir avec notre métier. L'outil pour déverrouiller, pour casser les serrures est toujours le même. Mais voilà, il faut savoir que... Donc, moi, je pense que faire des interventions dans les écoles, les lycées, mais dans plein de niveaux d'action pédagogique possible, c'est nécessaire pour notre métier. C'est absolument nécessaire. Parce que là, on se rend compte du réel aussi. Il y a quoi en face? Parce que c'est vrai que le cercle clos, les soi-disant amis du réel, ou les autres festivals. Moi, j'ai travaillé aussi dans beaucoup des réseaux de cinéma expérimental. La première chose que j'ai fait, j'ai essayé de porter le public que j'avais, comment dire, connu, qui suivait les choses que je faisais dans les réseaux de cinéma documentaire, dans les cinémas expérimentaux, et vice-versa. Pour moi, je me souviens quand j'ai montré à l'USAS Festival, qu'il y a 10 ans, c'était un festival très militant, et moi, je, nous, les 68. La région centrale de Mike Osnon, il y avait 40 personnes qui sont restées dehors. Alors tu dis, bon, parce que pour moi, c'est un documentaire. Parce que moi, j'ai une vision élargie du territoire documentaire. Et donc, il touche aussi à d'autres choses. Sylvain Georges, il avait fait un Super 8 et quelques vidéos. J'ai vu ça et je le portais en Italie. Au tout début, personne ne le connaissait, sauf Nicole, parce qu'il est une Brennaise qui était un étudiant à elle. Et je l'ai amené dans un centre social à Milan, occupé, et on a fait un séminaire avec des jeunes vidéastes qui voulaient filmer les manies, filmées politiques. Après, lui, aujourd'hui, il fait les trucs rincières Didier Berman, et je crois qu'il a un peu oublié d'où il vient. Mais c'est pas polémique contre vous, au contraire, c'est contre lui. Mais c'est sûr que c'est important pour moi d'élargir le corpus, mais mélanger le public aussi. Donc d'essayer de changer, de broyer. possible. Et mais je pense qu'en tout cas, Internet, les revues sur Internet comme ça, qui le sait qu'il y a des gens qui ne sont pas entraînés au cinéma, cinéphiles, et qui tombent sur un film que vous avez mis en ligne, sur un article. Ça, vous pouvez pas le savoir, et c'est intéressant.
Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. C'est, là aussi, ça fait partie des hasards, du fait que, bon, ben voilà, c'est là, et n'importe qui peut tomber dessus. Donc ça, c'est effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, après, évidemment... Il faut malgré tout rechercher et passer par les filtres des moteurs de recherche, etc. Donc c'est pas non plus l'accès en même temps n'est pas complètement ouvert non plus au sens où, voilà, on n'y arrive pas non plus complètement par hasard non plus. Mais bon, après oui, je suis sur l'idée de la pédagogie, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et de manière générale, je pense que tout le monde a débordement et est assez d'accord avec cette idée-là. Mais qui chez nous, passe aussi par l'idée, au fond, de pouvoir parler. En fait, la question, elle est double, parce que c'est essayer de tirer, disons, le suc d'un blockbuster, et en même temps, essayer d'aller voir autre chose, quelque chose qui est évidemment moins connu, etc. Donc, nous, on se situe un peu sur ces deux plans, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout un rejet du cinéma contemporain qui serait... ou même des séries télévisées, etc., auxquelles on essaye d'accorder une certaine place ou importance. Voilà, l'idée, c'est aussi de que le passage puisse se faire entre ces formes-là, disons les formes, voilà, de consommation, de grande consommation, et puis des choses peut-être plus rares. Voilà, donc ça parce que de manière générale, ça correspond aussi à notre cinéphilie. Et voilà, donc on n'a pas de recherche, enfin il n'y a pas de pureté ou de voilà, on accueille tout au sens où ce qui compte pour nous, c'est d'abord la qualité du texte d'une certaine manière, plutôt que la qualité du film intrinsèquement qui est abordé. Voilà, et donc ce qu'on juge, c'est d'abord les textes qu'on reçoit, même si, par exemple sur des films qu'on n'a pas vus, plutôt que les films eux-mêmes en tant que tels. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne vais pas aller vérifier si ça correspond, entre guillemets, à un auteur débordement. Voilà, ce n'est pas un label, c'est rien de tout ça. Et ce qui nous intéresse, bon, c'est simplement, disons, la vivacité de la réflexion ou des propos qui sont offerts. Et c'est pas, voilà, c'est pas un label, et il n'y a pas d'auteur débordement au sens où il y aurait, voilà, une sorte de politique des auteurs où il faudrait défendre absolument un tel. Il y a évidemment des amitiés qui peuvent durer sur plusieurs années, etc. Et des gens qu'on suit. Et après, c'est encore une fois, c'est aussi le fait de rencontres et de hasards et de modulation, disons, de la ligne.
Merci. Je ne sais pas si je me tourne vers les organisatrices. Je ne sais pas s'il nous reste... Je pose une dernière question peut-être, et après on passe à... Ok. Peut-être pour à la fois continuer la discussion et soulever une question un petit peu différente. On va retomber aussi sur des choses plus peut-être pratiques. Ce matin, il a été évoqué la question du collectif, notamment de Terre-à-Trait, mais comment on fonctionne, comment on met en commun les moyens pour produire, par exemple. Il y a eu la question le fait que l'économie peut produire, je crois que c'est Françoise Parfait qui a dit ça, l'économie produit la poétique de l'objet ou de l'œuvre. Pour mettre ça en rapport avec vous, vos pratiques, comment en fait vous... Comment au quotidien presque ça fonctionne pour vous de manière concrète? Je pense aussi par exemple à Raphaël qui, de manière tout à fait grégaire, doit transporter finalement les numéros de débordement, qui sont assez volumineux comme vous pouvez le remarquer, plusieurs numéros pour les passer en fait, pour les transmettre, pour que les gens puissent les lire. Donc voilà, peut-être pour au débordement, s'il y a un modèle économique ou pas, ou une structure qui porte... La revue, et de ton côté, peut-être Federico aussi, comment du coup, dans les relations avec les festivals, éventuellement, comment ça, concrètement, ça fonctionne, quoi.
Oui, alors, juste pour peut-être compléter ma réponse précédente, parce qu'on a l'impression quand même que que Débordement n'a pas non plus de colonne. En fait, y en a quand même une qui n'a pas fait l'objet d'un édito, voilà, où on a posé certaines choses qui nous intéressent dans le cinéma et qui pour nous font que voilà certains films sont plus importants que d'autres. Et au sein de la rédaction, il y a quand même certaines affinités. On peut se discuter des films, mais sur le fond, au fond, et sur ce qui nous importe dans le cinéma, on est assez d'accord. Par ailleurs, je considère aussi, en disant que le texte pour moi est plus important que le film d'une certaine manière dont il parle, c'est que je considère qu'il y a aussi une forme d'autonomie de la critique et que pour beaucoup de films, pour beaucoup de textes que je lis, au fond, j'ai pas nécessairement besoin d'aller voir le film après. C'est-à-dire que le texte en lui-même peut me suffire d'une certaine manière, si c'est vraiment un bon texte. Et il y a beaucoup de films qui, pour moi, n'existent qu'à travers des textes. Et ça peut me suffire. Donc je pense qu'il y a aussi cette idée d'une sorte d'autonomie de la critique et que le texte doit tenir par lui-même. Par ailleurs, sur le mode d'organisation, à Débordement, donc là, je me suis baptisé rédacteur en chef pour le numéro papier, c'est une appellation qu'on utilise presque par dérision. Le chef, au fond, c'est celui qui remplit les enveloppes et qui porte les colis et qui fait le courrier. Et c'est par ailleurs le moins diplômé de tous, puisque je suis le seul à pas avoir fait de thèse. Donc voilà, c'est vraiment pas un titre ou une sorte de supériorité, de décision ou quoi que ce soit, puisque ça reste essentiellement collectif, comment on publie, comment on travaille, donc on est tous 3-4 à relire les textes, etc. Donc il n'y a pas vraiment de hiérarchisation, on n'est rien. Au niveau économique, il n'y a pas vraiment d'économie, c'est-à-dire que pour le... Grosso modo, le site nous coûte 30 euros par an et après personne n'est payé. Donc tout le monde travaille par ailleurs. Et ça influe aussi évidemment sur le nombre de publications qui est limité, mais ça c'est volontaire. Et pour la revue papier, on a fait un préfinancement, donc voilà, les gens ont acheté des exemplaires de manière très généreuse, ce qui nous a permis de payer l'imprimeur, qui est donc la seule personne payée à ce jour pour la fabrication du numéro. Voilà, il n'y a pas d'économie et si ce n'est le fait que tout le monde travaille par ailleurs. Et évidemment, ça influe aussi sur le nombre de textes, sur le temps qu'on prend pour relire, etc. etc. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement un mal en soi, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des lacunes, évidemment, il y a beaucoup de films qu'on rate, dont on aimerait parler, mais on n'a pas le temps. Et en même temps, je crois qu'il y a une certaine vertu de la critique amateur, ne serait-ce que parce qu'on ne s'épuise pas trop le regard à aller voir tout ce qui sort et à se dire, il faut se positionner sur tel truc ou il faut rendre compte de tel machin. Et par ailleurs, c'est pas exactement l'économie, mais c'est aussi une question de positionnement, disons, au sein de l'économie de la critique, on pourrait dire, l'économie symbolique, c'est qu'on est situé à Lille, on va pas aux projections de presse, on voit les films quand on peut les voir, c'est-à-dire quand ils sortent en salle, ou éventuellement en festival, on en rend compte quand on peut en rendre compte, c'était parfois plusieurs semaines après la sortie, on n'a pas d'attaché de presse qui viennent nous téléphoner pour dire on n'a pas non plus énormément de copains cinéastes qui nous tiendraient un peu par la manche ou de ce genre d'obligation. Donc là on est assez marginaux, disons, au bon sens du terme, de ce point de vue-là aussi, et qui fait que, il n'y a pas non plus de question de pouvoir, disons, parce qu'au fond, être chef de Débordement, entre guillemets, c'est simplement une galère, et donc il n'y a pas de tiraillement, de clan, de trucs, de machin, tout se fait en bonne intelligence et avec une certaine simplicité, donc là, c'est l'avantage aussi, au fond, de n'avoir aucun pouvoir, d'une certaine façon.
Et moi, de mon côté, je suis d'accord avec la définition qui a été donnée autour de le lien entre la poétique d'un objet ou d'une œuvre et l'économie. Le projet dépend de plein de variables. Donc, par exemple, un des derniers projets que j'ai fait et qui vient juste de terminer, c'était une programmation pour... Lightcone, c'est les majeurs distributeurs de cinéma expérimental en France. Et donc, ça s'est fait que moi, je regarde, j'allais très, très, très souvent dans leurs bureaux, dans leurs locaux, à regarder plein de films. Et à un moment donné, en discutant avec le directeur de c'est une association, c'est une sorte de coopérative des cinéastes qui ont une possibilité de diffusion de leurs films, la plupart en 16 mm, en tout cas en pellicule, mais aussi en vidéo. Et donc, moi, je lui dis, écoute, j'aimerais inventer une sorte de résidence chez vous. C'est-à-dire, je vais passer un mois chez vous. Tu m'installes dans la petite salle, je regarde du 16 mm du matin jusqu'à la nuit. Très bien, je prends des notes et je vais sortir de ça une programmation qui va traverser l'histoire de la collection, l'histoire du cinéma expérimental, à ma manière, à ma position, mon point de vue. Et il a accepté. Et donc, j'ai construit cette séance, chacune sur les dispositifs des bases du cinéma. Là, c'est sur le cadre, sur la question du temps, sur la question de la répétition, sur la question de la représentation, sur le cercle, sur le dispositif, l'affichage de la construction du film en train de se faire, et sur la question de la lumière. Et à partir de cela, donc j'ai regardé énormément des films, j'emmenais aussi des DVD à la maison pour les regarder la nuit, c'est un travail de fou colossal. Et ça s'est construit comme ça. Donc il y a un rapport aussi de confiance qui s'est fait. C'est un dispositif qui n'existait pas chez eux, qu'ils ont inventé et qu'ils ont décidé de pérenniser. C'est-à-dire l'année prochaine, il y aura un autre curateur, commissaire, appelé comme vous le voulez, qui prend la relais. Ça s'est fait comme ça, par exemple. Mais après, ça dépend des possibilités financières. Il y a des projets qui sont aussi faits bénévolement parce que le projet m'intéresse, parce que m'engage. Moi, je n'ai pas de statut, parce qu'il faut dire que le programmateur de cinéma, même si, à mon avis, c'est un travail de création, je ne me considère pas du tout un artiste, mais je suis un chercheur qui a une certaine tendance vers la création, disons comme ça, il n'est pas reconnu, il n'est pas protégé. Et je me retrouve souvent dans le rôle ingrat d'écrire des mails à des gens qui te piquent, tel quel des programmes que tu as faits, au moins de lui faire un peu honte, parce que je ne vais pas attaquer, bien sûr, parce que tu te retrouves avec des choses que tu as fait ou tu as passé des centaines d'heures de ta vie et qui sont prises comme ça. Voilà, ça c'est sûr. Donc c'est un travail qui est... Moi, je n'ai pas de statut, je ne suis pas intermittent, je n'ai pas de salaire. Donc je dois inventer mon quotidien, ma vie, mes relations aux institutions, j'enseigne aussi, mais je, de moins en moins, et surtout, je ne veux pas de poste fixe. Je vais des contrats réduits annuels, la carte des temps, pour avoir le temps de travailler. Donc c'est sûr que c'est une économie qui me permet de vivre bien, comme j'ai envie de vivre. Voilà. Mais après, ça s'est fait, par exemple, l'été prochain, je vais faire cette histoire du cinéma documentaire yougoslave. Ça s'est fait parce qu'il y avait un réalisateur croate qui est venu à la séance indienne, que je vous ai montré. Il a adoré les films, il m'a dit, tu sais, j'ai programmé la Cinémathèque de Zagreb, j'ai envie que tu... Ça, c'était un honnête. Mais tu amènes ces films-là chez nous. Donc, il m'a invité. Et là, je me suis dit, allez, je vais aller à Zagreb pour la première fois dans ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les archives. Et là, je suis allé là, Sarajevo, en Slovénie. Et petit à petit, j'ai construit des relations avec des gens. Je me suis dit, bon, je vais travailler sur ça. Même chose sur le Portugal, j'ai travaillé pour Doc Lisboa, je vivais à Lisbonne, je me suis dit, j'ai envie de raconter ça, j'ai rencontré des gens qui me racontaient l'histoire de la Révolution, donc j'ai dit, bon. Donc ça s'est construit, le hasard, encore une fois, c'est le grand luxe, comme disait Debord, je suis docteur en rien. Je ne suis pas spécialiste. Voilà. Je deviens spécialiste pendant 6 mois, 1 an, sur quelque chose, jusqu'à la folie, jusqu'à tout voir d'une cinématographie. Pour une programmation sur l'histoire de documentaire polonais, j'ai vu 600 films sans sous-titres. J'avais l'impression de parler polonais à la fin, mais ce n'était pas vrai. Et voilà, les choses se font comme ça aussi, par amitié, par les liens, tout découvre un film complètement au hasard. Et après, j'aimais beaucoup de films en ligne, de manière anonyme. Peut-être vous avez vu des films sur des sites, c'est moi qui les ai mis sur le mot, parce que je connais plein de gens qui ont des sites, des trucs comme ça. Je crois énormément au partage. Mais après, une chose, c'est le mare magnum d'Internet, où il n'y a pas tout. C'est pas vrai. Il n'y a pas tout. Il faut aller dans les archives pour travailler.
Mais c'est bien, du coup, tu empoisonnes un petit peu Internet aussi. Le puits d'Internet.
Mais c'est intéressant le fait qu'après, comment dire, que moi, j'ai découvert plein de choses grâce à Internet. Il n'y a aucun doute. Mais après, il faut savoir que les films sont là. Là, je vais faire deux programmes pour la Cinémathèque de Jérusalem. Et je vais faire un truc sur le cinéma expérimental polonais et animation polonais qui a touché la question de la Shoah. Comment ils ont figuré ça? Et ça m'intéresse. Et là, j'ai découvert des films au hasard, par hasard, que je ne connaissais pas, même si je suis allé plusieurs fois en Pologne pour regarder des films. Totalement par hasard. Tu trouves la chose, l'effet Kadavrsky dans le travail d'historien est essentiel. Une référence t'amène à une chose, un papier, une notule de, c'est pas Luc Moulet, hein, 59, qui cite un truc, dit, ah, c'est un film, je l'ai pas vu. Ou Michel. Après, tu suis des passeurs du passé que tu as aimé. Moi, il y a des critiques, Michel Delahaye, trucs. Michel Delahaye, qui était aujourd'hui, personne ne se souvient de Michel Delahaye. Michel Delahaye a été un grand acteur aussi, mais aussi un immense critique. Michel Delahaye, c'est le premier à avoir écrit sur Peter Nestler, par exemple. Il avait vu 4 films. Michel Delahaye, c'est... Voilà, il a travaillé pour Vecchiali, pour plein de... Et tu découvres qu'il y a des généalogies, il y a des familles derrière. Après, tu découvres que ce cinéaste-là, il était ami de ce critique-là, et qu'ils ont des goûts en commun. Et tout à l'heure... Raphaël a cité Pierre Léon, tout découvre que voilà, l'histoire de la Diagonale qui ressort aujourd'hui, c'est cette génération de cinéastes-là qui en fait se sont retrouvés dans ces films dans les années 80 quand il n'y avait rien dans le cinéma français et ils ont trouvé des choses très intéressantes. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que l'histoire est du cinéma, on l'évoquait tout à l'heure avec Raphaël. Si tu fais des histoires d'histoire de l'art pendant 20-25 ans, tu arrives à avoir au moins eu le contact avec, disons, presque l'encyclopédie de l'art occidental. Tu peux y arriver, disons, du Rinascimento jusqu'à fin du 19e. Mais le cinéma, 110 ans, moi, tous les jours, je découvre des choses. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est infini. C'est un puissant fond. Heureusement pour mon travail. Hein. Sinon, je ne pourrais pas payer mon loyer.
Merci. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Peut-être. Alors, je ne sais pas si on ouvre la discussion maintenant ou si on poursuit. OK. Voilà. Donc, on va enchaîner du coup. Déjà, merci. Pardon. Merci Federico et Raphaël.